bonsoir. Vous écoutez Voix de Fait, l'émission du collectif Anarchiste la Nuit sur les ondes de CKIA 88.3. Je suis Nicolas en compagnie de...
Chalie.
Et ben, il y a Farouko qui est derrière l'autre micro et qui, comme d'habitude, ne parlera que quand on ne lui demandera pas de parler. Donc voilà, cette semaine à l'émission, on va voir quelques nouvelles tirées de notre blog.
Ouais,
des trucs qu'on a pas dit un peu partout. Le retour de la minute du patrimoine révolutionnaire, je sens que ça frétille dans les chaumières. On va parler de Solidarity Forever cette fois-ci. Et on va revenir assez longuement sur une nouvelle revue, une brique en fait, qui est arrivée chez votre libraire il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Les Nouveaux Cahiers du Socialisme, qui propose un premier numéro sur les classes sociales aujourd'hui. Et ça se terminera en plug, comme c'est le temps, comme c'est l'habitude. Donc, voilà, vous êtes en compagnie du collectif Anarchiste la Nuit pour la prochaine heure.
Et oui, on a commencé comme à l'habitude avec l'instrumental. Oui, l'instrumental de Helland, de notre bon ami Webster. Et on va enchaîner immédiatement avec Le Voile du Silence du rappeur marseillais Freeman.
Helland, là, c'est pas Los Angeles.
Non, Limoilou, man.
Limoilou.
Là, idéalement. Désolé, du blanc.
Pour l'école, hein, l'école. Ouais, on est ma petite lettre.
D'accord, ça va.
Merci. Ma caméra, pardon.
Grandi dans les régions d'Alger, situé dans les maquis, loin des marchands de tapis, exposés le long des rues, ruées de gens sur le pavé, en se passant le calumet, près d'une tasse de thé à la menthe, sur un air de huit qui chante, sous les tentes sans arrêt, c'était en plein été, sur la planche ensoleillée, vêtu de blanc sous un immense palier, sur le grand port d'Alger, dans sa main un panier, juste quoi manger pour le trajet, assis sur un banc, elle n'a que 18 ans, quand elle prit son premier bateau pour la Méditerranée, en direction de Marseille, ville rebelle, un coucher de soleil où ses parents se sont installés. Il y a 17 ans, 4 enfants, pas un franc. Seule valise en main, comme compagne sans rien. Accueilli comme des mesquines, loin des regards mesquins. Pour y travailler, gagner son pain, subvenir à ses besoins. Faut bien, faut bien.
Elle brise le voile du silence pour prendre les voiles à 18 ans. Elle pense à l'évasion, prisonnière d'une tradition millénaire sur terre. Que faire si je revendique des choses pour mes sœurs? C'est que dans leur cœur ça va mal. Combien parmi vous ont fait la cabale? Maintenant on pense à vous, c'est dans les annales.
Oubliée dans le désarroi, elle n'a pas le choix. Elle voit comment les traditions, les coutumes de ses parents dirigent son intégration. Loin du temple de la tentation, enfermée dans sa maison, elle n'a pas de chance. Prisonnière sous le voile du silence, la sentence. Elle fait partie de celles qui pensent à l'évasion. Voyager vers l'horizon, la seule passion était collée sur les murs blancs de sa chambre. Quelques posters de mannequins, regard tendre. Sur son regard, près du miroir, ses larmes tombaient comme des cendres. Elle rêvait de se rendre, partir loin là-bas, loin de son lit froissé. Mais elle y est par sa destinée, dans son 10 mètres carrés, près de sa fenêtre, la tête posée sur ses lettres. Elle s'inquiète, rien à mettre sur ses cahiers de maths. Près des petits frères qui font la yacht, ouais. Les pattes sont cuites, la faim crie, les frères crient tout seul. Dans ce bruit la nuit, le mal elle le subit, elle se couche à minuit.
Elle brise le voile du silence pour prendre les voiles à 18 ans. Elle pense à l'évasion, prisonnière d'une tradition millénaire sur terre. Que faire si je revendique des choses pour mes sœurs? C'est que dans leur cœur ça va mal. Combien parmi vous ont fait la cabale? Maintenant on pense à vous, c'est dans les annales.
Après les cours elle rentre chez elle. Pour elle pas de week-end, renfermée dans sa maison, peine près d'Italion. Le moindre retard était la moindre explication. Sinon c'était sans réveillon, cloîtrée dans sa chambre, avec ses rêves et ses crayons en larmes. Pour son carnet secret, ses sentiments de femme dévoilés. En grandissant, sans pouvoir parler, rien demander. Elle n'osait pas, elle n'osait pas la voix. Pas le choix, pas le droit de choisir, désobéir. Il lui a fallu du temps avant de revenir de là où ses cris se voient dans le silence sans rien dire. Elle inventait des fausses sorties, bibliothèque, copie chez la copine, copie se combine. Cours de rattrapage pour un ciné, qu'elle ciné sur le cahier. Tout ça pour profiter de la moindre seconde d'une vie volée. Sans blé, sans blé, qui se répétait dans sa tête. Elle a appris à tout faire en cachette, depuis l'enfance en cachette. Qu'était sa salle de vie, sa façon d'être, d'exister. Autant que ses maillons fermés, obligés de se cacher pour une envie d'aimer. Dans une force de liberté qui était plus forte que les regrets donnés par les coups de ceinture affligés. En suppliant jusqu'à maintenant, aujourd'hui elle exhorte son passé. Le temps pense peu à peu les blessures, fatiguée de lutter, elle décide à s'enfuir, s'enfuir.
Elle brise le voile du silence pour prendre des voiles à 18 ans. Elle pense à l'évasion, prisonnière d'une tradition millénaire sur terre de fer. Si je revendique des choses pour mes sœurs, c'est que dans leur cœur ça va mal. Combien parmi vous ont fait la cabale? Maintenant on pense à vous, c'est dans les annales. Pour nos sœurs, c'est que dans leur cœur ça va mal. Maintenant on pense à vous, c'est dans les annales. On pense à vous. Pour nos sœurs, c'est que dans leur cœur ça va mal. Maintenant on pense à vous, c'est dans les annales.
Dominic Zodi, Rationem Miam. Dominus Vobiscom, et Spiritus Sanctus. Amen.
Vous écoutez, Voix de Fer.
Voilà, voilà, ben c'était bon, hein.
Oh oui, mais c'était court.
Pour rester dans le temps, il y a de l'espoir, hein. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le phénomène religieux régresse. Régresse aux États-Unis. En fait, c'était peut-être pas juste un accident de parcours. En plus de s'être débarrassé de George Bush, il semble que les Américains soient de moins en moins religieux. C'est surprenant comme ça, mais il y a une étude de fond qui a été menée auprès de plus de 50 000 personnes. Donc, ce sera une étude épidémiologique. On peut parler d'épidémie quand on parle de religion. Hein. Donc, une étude de grande ampleur organisée par une université dont je tairai le nom, parce que sinon on va perdre toutes ses subventions. Donc, selon cette étude-là, toutes les religions sont en régression au sud de la frontière, tandis que le nombre de personnes se définissant comme athées ou agnostiques est passé de 4,7 millions, soit 15% de la population, et est passé en fait à 4,7 millions. Donc, il y a 4,7 millions d'athées ou d'agnostiques, de gens sans religion. 15% de la population, c'est la troisième confession en importance au pays, derrière les catholiques et une quelconque secte protestante dont j'oublie le nom. Voilà qui est encourageant quand même. Encore un petit effort et les Américains vont pouvoir revenir dans le 20e siècle. Il ne nous restera plus ensuite qu'à inventer le 21e siècle. Alors voilà, ça s'est ramassé dans le USA Today, et puis il y a le blogueur de Cyberpresse aux États-Unis qui l'a vu et qui en a fait une entrée de blog, et c'est comme ça que nous on en a entendu parler. D'ailleurs, ça peut-être rien dire là, mais c'est quand même en Nouvelle-Angleterre, donc ça c'est la région qui est directement limitrophe et qui touche le Québec, que les gens sont le moins religieux. Sauf que, malheureusement, il semble que le Canada suit le chemin inverse par rapport à ce qui se vit aux États-Unis. Alors imaginez la honte, le ministre d'État aux sciences et à la technologie était incapable de dire précisément s'il croit à la théorie de l'évolution lorsque le Globe and Mail a fait son portrait. Alors, ça arrive au cœur d'une controverse autour de coupures sévères au budget de recherche universitaire. Alors, pour faire une histoire courte, les conservateurs considèrent que les campus sont des nids de gauchistes, et donc ils ont décidé de couper les vivres aux chercheurs de sciences humaines pour les chercheurs dits fondamentaux, c'est-à-dire les gens qui cherchent point, et plutôt s'intéresser à la recherche appliquée, donc qui peut être directement intéressante pour l'économie. Donc, vous avez du mal à imaginer ça, pourtant c'est arrivé cette semaine. C'est Chantal Hébert, en fait, qui nous apprenait sur son blog qu'en entrevue avec le Globe and Mail, le ministre Gary Goodyear a refusé de dire s'il souscrivait à un des fondements de la science moderne, préférant se réfugier derrière son droit à la vie privée. Il a dit textuellement « Je ne répondrai pas à cette question. Je suis chrétien. Je ne crois pas qu'il soit approprié de poser une question sur ma religion. » Alors là, ça a fait un tollé assez monumental au Canada anglais. Il semblait que Chantal Hébert soit d'ailleurs la seule journaliste québécoise à lire les journaux du Canada anglais, parce qu'on n'en a pas vraiment entendu parler. Ça a fait un tollé monumental, entre autres. Il y a des chercheurs, des universitaires de renom qui ont fait comme, ben, c'est pas une option, tu sais, la théorie de l'évolution, c'est pas une question de croyance personnelle.
Ça venait pas une option.
Non, c'est ça, c'est pas une affaire de croyance religieuse. Et donc, le ministre a reculé légèrement en entrevue à CBC, il a dit que, bien sûr, il croit à l'évolution, on n'arrête pas d'évoluer dans la vie, et donc, oui, il a dit ça texto, et donc, il croit à l'évolution, et puis que c'était juste qu'il considérait que la question n'était pas appropriée venant du Globe and Mail, puis que ça avait juste pas rapport à ses croyances personnelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs personnes pensent qu'une aile créationniste dans le Parti conservateur et que le ministre en question y croit, il en fait partie.
Pourquoi particulièrement venant du Globe and Mail?
Le Globe and Mail, c'est le Liberal Daily.
Ah, les écoeurs, hein.
Ben, en fait, il y a le Toronto Star aussi, là. Mais en fait, c'est comme pas mal tout. Il y a le Liberal Daily, il y a pas le National Post l'œil des conservateurs. Donc voilà, c'était nos petites nouvelles religieuses de la semaine. Du côté de la religion néolibérale, il y a aussi des choses qui se passent dans la région de Québec.
C'est ça, il y a des étudiants de deux cégeps de la ville qui vont peut-être d'abord faire face aux augmentations de leur frais d'inscription. Premièrement, au cégep François-Xavier Garneau, la Fondation pour l'Association des Sourds des Parents, ils veulent augmenter les dons obligatoires qui sont des étudiants. C'est l'association étudiante qui a décidé d'organiser un référendum sur la question parce que l'association de parents plus la fondation, ça ferait une hausse de 35$ par année. Ça serait pour financer divers projets là, au cégep. Puis là, on ne sait pas quels sont les résultats du référendum, mais je considère que je sais pas, tu sais, parce que les étudiants, là j'ai pas vu de pancarte au cégep qui dit pour le oui, là, juste pour le non. Là, ça, c'est quand même encourageant. Mais c'est quand même curieux que la fondation puis l'association des parents demande autant aux étudiants quand tu considères que les membres de direction payent à peu près 2 millions de dollars en salaire. Là, c'est un peu...
Ouais, ben il faut savoir que c'est de plus en plus compliqué de soutirer de l'argent aux personnes qu'elles ont gradué, qu'elles sont parties, ce que les fondations font habituellement, et donc en conséquence, ils essaient de leur soutirer de l'argent avant qu'ils graduent.
J'ai une question, moi. Oui. Est-ce que c'est légal de parler de dons obligatoires?
Ben, rafraîchis-moi.
Ben, c'est des dons obligatoires parce que c'est de l'argent qu'il faut que tu donnes quand tu prends les faits d'inscription, et si tu te fais rembourser, ben faut que tu fasses une demande par après.
C'est comme la cotisation étudiante, en fait.
Non, c'est plus, tu peux plus. En tout cas, du temps où j'étais au cégep, on pouvait plus la réclamer.
Ah.
Là, on peut encore, là,
dans l'association, on pouvait.
Moi, j'étais dans le cégep gauchiste du Vieux-Montréal.
Ben, nous, on pouvait faire rembourser la cotisation étudiante.
Oui, ma première session, puis ma deuxième. Après ça, ils sont mis sous une espèce de...
Tu sais, la loi d'accréditation.
Ouais.
Oh, oui, OK.
Puis après ça, tu pouvais plus aller chercher ton argent. Fini.
Il me semble qu'il y avait une partie des frais afférents, en tout cas, qu'on pouvait se faire rembourser, là, qui était effectivement facultatif quand j'étais
là, ma soeur, c'est plus ça. Puis au cégep de Sainte-Foy...
Le don, ils peuvent se le faire rembourser.
Ouais. Okay. Mais le nombre de personnes qui le font, tu sais.
Ouais, c'est mineur.
Ça, puis là, pour au cégep de Sainte-Foy, c'est la direction qui veut soutirer 40 000 $ des poches des étudiants pour financer la création de deux nouvelles équipes de soccer. L'augmentation serait de 0$ par session, mais l'article a été publié sur Cyber Press, mais ce qui n'a pas été mentionné, c'est que les frais afférents à ce cégep-là augmentent à chaque session. Depuis, il y a un protocole d'entente qui a été signé à session au printemps 2006 entre l'asso et la direction, ce qui fait en sorte que les frais montent à chaque session.
Il faut savoir que l'association étudiante du cégep de Sainte-Foy est quand même un peu particulière, elle s'appelle les Services Collectifs Inc.
Elle est incorporée?
Oui. Oh, c'est pas un syndicat, ouais. c'est ça s'appelle les services collectifs Inc.
Bon, c'est une business.
Il y a différents moments où est-ce qu'ils ont une pratique syndicale, là, on s'entend, là, c'est quand même un des membres fondateurs de l'AC, mais...
Jadis,
il y a fort fort longtemps. En fait, de 98 peut-être à 2002, ça a été intéressant, mais toutes les autres, les 35 autres années de l'existence de l'association étudiante, non.
Mais je reste quand même tiqué sur don obligatoire.
Oui, c'est comme une contribution volontaire pour pouvoir rentrer dans une place.
Ah oui, ça aussi.
Dans un autre ordre d'idée, il y a quand même d'autres petits trucs à souligner dans la dernière semaine. Bon, ça a été complètement occulté suite aux événements qui ont entouré la manifestation contre la brutalité policière du dimanche 15 mars. Mais le samedi 14 mars, il y avait une nouvelle qui aurait pu être une bombe dans le Devoir. C'est confirmé, la Sûreté du Québec a infiltré une manifestation de Montebello. Ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, en août 2007, il y a eu des manifestations à Montebello parce qu'il y avait un sommet pour un partenariat sur la sécurité et la prospérité entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. C'est une espèce de sommet privé où des chefs d'entreprise essayent d'obtenir plus de déréglementation de la part des États et tout. Donc, il y avait des manifestations et voilà là, tout le schlimblick altermondialiste. Et il y avait eu une très, très grosse mobilisation policière. En fait, la Sûreté du Québec avait dépensé à elle seule 7 millions de $ pour...
Oui, avec la GRC, il avait bouclé la ville.
Ouais, ben il y avait en fait la Sûreté du Québec à elle seule 1300 policiers sur le terrain, ce qui était plus que le village,
juste
que la population du village. Fait qu'avec la GRC effectivement, c'était comme complètement monstrueux. Mais on a appris que outre les 1300, il y a eu une requête en accès à l'information. Ça c'est Francis Dupuy-Déry, le politologue à l'Université du Québec à Montréal, anarchiste notoire qu'on a eu en entrevue ici suite à ses livres à quelques reprises, donc qui a décidé d'utiliser la loi, de faire une requête en accès à l'information, étant donné que lui est un chercheur en sciences sociales et que dans un de ses objets de recherche, c'est la répression politique. Donc, il a voulu en savoir plus, il a voulu avoir tout là-dessus, et entre autres, il a appris que la Sûreté du Québec avait très exactement 26 agents civils sur le terrain.
Donc, hey, c'est quand même un gros contingent.
Oui, hein? Oui, trois équipes.
Tout un black bloc.
Oui, c'est ça. Trois. En fait, 26 agents, pas tout le temps en même temps, mais il y avait quand même 26 civils. Et
ils travaillent sur des corps de travail. C'était louche aussi. Il y en avait des manifestants qui s'en allaient. Oh, ma journée est finie.
L'opération s'appelait flagrant délit. Malheureusement, c'est la SQ qui a été pris en flagrant délit. Tout ça, c'est dans le devoir d'en fin de semaine. Et bon, on a toujours l'air un peu crackpot là, quand on parle de la police, parce qu'on se dit... souvent, les gens ont envie de nous dire « Hey, relax, on est en 2009, on n'est pas dans un état policier. » À la limite, c'est pas les États-Unis ici. Puis là, on apprend des affaires comme ça. Et donc, oui, la police nous prend au sérieux. N'hésite pas à nous infiltrer. 26 agents civils, dont au moins 3 agents provocateurs.
Au moins 3.
Au moins 3. En fait, il y en a 3 qui sont fait prendre.
Heureusement arrêtés.
Oui, ils sont fait arrêter. Et donc, voilà. Puis, ben, si on met ça en parallèle avec d'autres nouvelles qui sont arrivées récemment, comme, par exemple, le fait que le Service canadien de renseignement et de sécurité a enquêté sur Guerre à la guerre cet été pour savoir s'il constituait une menace à la sécurité nationale dans le cadre des fêtes du 400e. Donc,
ah oui.
Oui, et le réseau de résistance québécois aussi, là, les quatre nationalistes qui font des graffitis. Là.
Bon, ouais.
Ben c'est ça, eux autres, ils ont été sous enquête par la SCRS.
Ils mettent des autocollants aussi.
Oui, ils mettent des autocollants aussi, puis ils font de l'affichage là où les chiens pissent.
Oui, j'aime ça quand je promène mon chien, je fais exprès. Ah tiens, voilà un beau poteau, mon chien.
Donc, toujours est-il que la CRS, la SQ, bon, tout ce monde-là nous prend au sérieux, n'hésite pas à nous infiltrer, donc il faudra peut-être en tirer des leçons. Et fait à noter, la Sûreté du Québec, elle, tire des leçons des événements dans le lot de papiers que la requête en accès à l'information a permis, a amené à Francis Dupuy-Déry. Il y a, entre autres, un procès-verbal d'une réunion, d'un débriefing sur l'opération, dans laquelle il est clairement indiqué qu'il faudra à l'avenir faire attention pour que les agents provocateurs soient plus crédibles. On a parlé notamment de leur taille, de leur musculature, du fait que ce n'était que des hommes et que peut-être que ça prendrait des femmes, qu'il faudra en choisir des un peu plus gringalets et qu'il faudrait aussi mieux coller au profil contestataire et étudier la sous-culture de la contestation parce que ils se sont rendus compte que de porter un t-shirt de choix Radio X dans une manifestation altermondialiste, c'était peut-être pas une bonne idée.
Ils vont-tu leur payer des nouvelles bottes aussi?
Oui, c'est vrai. Fauco, il fait référence au fait que sur YouTube, on voyait, lors de l'arrestation, on voyait un flic les quatre fers en l'air et on se rendait compte, en fait, qu'il y avait les mêmes bottes que l'anti-émeute qui est en train de l'arrêter. C'était un peu particulier.
Ouais, faut quand même rappeler l'arrestation, les trois contestataires, en gros guillemets, ouais,
se sont lancés
dans les bras de l'anti-émeute, puis ça a pris un bon délai, tu sais. Une fois atterri dans les bras, on aurait dit que l'anti-émeute savait pas quoi faire.
Là. Ouais, ce qui est quand même assez particulier dans tout ça, c'est quand même, c'est les agents provocateurs en question, là, qui étaient masqués,
armés,
et tout. Et armés, il y avait des briques et tout. C'est le Black Bloc qui les a démasqués, qui les a dénoncés. C'est finalement un syndicaliste qui, ma foi, n'est pas jeune du tout. C'est le syndicat des communications de l'énergie du papier, qui doit avoir la soixantaine, au moins,
qui
leur courait après puis qui les engueulait. Ouais, il était entouré de goons de son syndicat, ce qui l'a aidé à pouvoir engueuler des jeunes gens masqués. Et donc c'est ça, lui, il revendiquait qu'il se démasque.
Oui.
Dave, vous êtes rendu dans une zone verte, vous vous démasquez. Puis il s'est mis, comme tout bon pacifiste non violent, à hurler agent provocateur et policier parce qu'il voulait pas se démasquer, puis il voulait pas s'en aller, puis qu'il essayait de se mêler à une foule de pacifistes parce que bon, la zone était divisée la zone de protestation était divisée en zones, en différentes zones. Donc voilà, c'est des faits. Je vous invite à lire le devoir d'en fin de semaine. Et pour terminer, une dernière nouvelle pendant qu'on a encore le temps. Je sais pas si vous vous souvenez, vous êtes peut-être trop jeune, vous, pour ça, mais il y a quelques années, il y avait une campagne publicitaire de l'Auto-Québec sur la 649. Le thème, c'était « Ça change pas le monde, sauf que... » Alors,
c'est encore le slogan.
Ah, c'est encore le slogan?
Ça dépend des annonces, de quel loterie on parle.
OK, mais dans la 649, c'était ça, puis là, t'avais quelqu'un qui criait, qui gagnait le gros lot. Et je pense que Québec solidaire pourrait changer de slogan. Il s'appelait « Ça change pas le monde, sauf que... » Ça pourrait être leur slogan, parce que les chiffres sont tombés au début de la semaine dernière. Le bureau de l'Assemblée nationale, qui est une instance paritaire où sont représentés les péquistes et les libéraux avec un ou deux représentants de la DQ, ils ont dealé finalement le budget de l'Assemblée nationale et ils ont décidé d'octroyer 90 000 $ à Québec solidaire pour le fonctionnement de son aile parlementaire. Ça c'est Amir Kadir.
Ils veulent faire fonctionner Amir.
Oui. Il paraît que c'est un traitement qui se compare à celui qui avait été réservé à Mario Dumont du temps qu'il était tout seul de sa gang. Bon, c'est des pinottes à comparer des 3,8 millions du Parti québécois. Mais ça reste quand même le plus fort financement par tête de pipe dans l'opposition. Et c'est genre le double de ce que l'ADQ reçoit par député. Et donc, c'est pour financer une espèce de budget de recherche pour avoir un attaché, finalement, et tout, et tout. Mais surtout, c'est le pactole pour une formation qui, jusqu'aux dernières élections, ne recevait que 87 000 $ en subvention directe de l'État. L'an dernier, c'était ça qu'ils avaient. Ils avaient un budget de 750 000, puis il y a 87 000 qui venaient de l'État. Donc... Mais c'est pas tout, et outre ce budget de recherche-là, Québec solidaire va obtenir 155 767 $ pour son bureau de comté dans Mercier.
Il achète la bâtisse?
Non. Chaque député de l'Assemblée nationale reçoit 155 767 $ par année pour faire fonctionner. Ben non, mais c'est pour le staff aussi.
Méchant loyer.
Ouais, c'est sûr que si c'était juste pour le loyer, ce serait beaucoup, mais c'est pas juste pour le loyer. D'habitude, ça sert à payer un ou une secrétaire, un ou une attachée politique. Et bon, enfin, bref, le staff du bureau de comté, auquel il faut rajouter le staff du Parlement. Donc, ça fait, d'habitude, en général, chaque député a 4 employés. Bref.
La question est-ce que Françoise est employée d'Amé?
Je penserais pas. C'est donc dire que l'élection d'un seul député de Québec solidaire équivaut à une subvention récurrente de 245 767 $ pour faire de l'action politique. Ce à quoi il faut ajouter le montant que le parti reçoit pour chaque vote reçu, 108 000 $, plus le salaire du député, 83 714 $. Bon, sur le salaire du député, on sera pas cheap, il faut l'admettre, c'est probablement moins que ce qu'il gagnait quand il travaillait. Et probablement que c'est... Non, mais c'est vrai, là, c'est un médecin spécialiste.
Oui, mais...
il devait gagner plus que ça. Et probablement que le parti va s'appauvrir à ce niveau-là, parce que j'imagine qu'il donnait des bonnes contributions au parti. Mais tout de même, ça fait des chiffres qui pourraient faire rêver n'importe qui s'est déjà occupé des finances dans un mouvement social. En effet, bon, c'est sûr que c'est pas les chiffres du mouvement syndical. On a vu que la FTQ, par exemple... Pour certains dirigeants de la FTQ, ce serait du petit change, mais c'est pas mal, on les nommera pas, mais c'est pas mal de l'ordre de la grandeur des budgets de groupes comme le FRAPRU, la Fédération des femmes, la C et compagnie. Donc
tout ensemble.
Non, pas tout ensemble quand même. Mais tu sais, c'est beaucoup d'argent et Québec solidaire est pas tout à fait dans la cour des grands. Là. C'est sûr, comme je le disais, c'est des pinottes à comparer de ce que le PQ et même l'ADQ ont. Mais disons que bon, ils ont définitivement quitté celle de l'extrême gauche et je doute que le budget du Parti communiste révolutionnaire se rapproche même de loin de ce type de budget-là. Donc en tout cas, au niveau financier, ils sont très très loin.
T'es méchant.
Non, je suis pas méchant, là, je veux dire. Soyons réalistes. Demandons l'impossible. Nous sommes un budget de l'ordre de Québec solidaire. Bon, voilà. C'est énormément de sous et tant mieux pour eux autres. On faut juste réussir à voir qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire avec leur nouvelle et relative richesse.
Avec cet argent-là, ils vont-ils pouvoir rester partis de la rue, des urnes et de la rue?
Ben, je sais pas, là. Mais quand même, c'est hot, là. Pense-y, là. Je veux dire, du jour au lendemain, tu te ramasses à 400 000 $ de plus.
Ça n'en fait pour... des parties.
Non, ben en fait, c'est strictement pour payer du monde, mais pour payer du monde pour faire une action politique. Non, c'est hot. Il y a vraiment quelque chose là, là. Dans la cour des grands, puis s'ils réussissent pas à faire de quoi avec ça, là, c'est parce qu'ils réussiront jamais à rien faire.
Ben oui, puis non, en même temps, il est quand même tout seul, là.
Ben non, il est plus tout seul, il vient d'avoir 5 employés, là.
Ouais. Mais pour la masse, tu sais, les gens
oui, oui, non, de c'est
réformation
ça, c'est
tombent
ça.
Dans...
Mais n'empêche, moi je pense qu'il y a des choses qui vont changer avec ça. C'est, sérieusement, là, ça change la donne. C'est pas... J'ai hâte de voir. En tout cas, bref.
Nous ça, verrons.
Nous, ouais, c'est ça. Qui vivra, verra.
Ouf. Nous vaincrons. C'est lourd.
Mais sur ça, nous, ça m'amusique, hein, quand même.
Ouais, on va essayer. On enchaîne immédiatement avec la minute du patrimoine révolutionnaire. On vous laisse entre bonnes mains.
Nous sommes sur le capital et ses usines, enchaînés du matin au soir à la machine. Pour notre peine des salaires de famine, les unions nous rendent forts. Solidarité, mes frères. Solidarité, mes frères. Mais si un jour nous occupons tous nos usines, puissant patron, vous ferez alors triste mine, car l'union nous rendra fort. Solidarité, mes frères, solidarité, mes frères, solidarité, mes frères, car l'union. Apportera un ordre nouveau sur la terre. Au coude à coude, restons unis pour les terres. Cette union qui nous rend fort. Solidarité, mes frères. Solidarité, mes frères. Solidarité, mes frères. Car l'union nous rendra fort.
Alors, comme Franco le disait, c'est la minute du patrimoine révolutionnaire. C'est la chronique musicale de Voix de Fait. L'idée, en fait, c'est de faire connaître l'histoire et les dessous de certaines chansons révolutionnaires. Alors là, peut-être que vous l'avez pas reconnu parce que c'est quand même très, très, très martial comme interprétation. Mais c'est le truc qu'on entend dans toutes les manifs syndicales au Québec. Là. Solidarité, mes frères et mes sœurs. Bon, en tout cas, on entend ça partout. On a même vu Chartrand chanter ça et tout. C'est un classique, bref, des manifs manifestation syndicale québécoise. Et en fait, ce classique-là, je suis tombé sur le livre de lutte en surlutte de Pierre Fournier récemment sur Google, et cette chanson-là est introduite par Lorraine Pagé, l'ancienne directrice de la centrale de l'enseignement du Québec. Donc, ça veut dire quel point c'est vraiment ancré dans les mœurs. Et donc ça, ben, c'était un chant syndicaliste révolutionnaire américain. À l'origine, c'est une traduction, la chanson, traduction qui a été faite en 1915 par Jean Baumgarten, c'est un marxiste français, et c'est ça. Bon, depuis, il y a un homme charitable qui a ajouté « Et mes sœurs » au refrain de la version québécoise de la chanson. C'est probablement ça que vous avez entendu le plus souvent. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver sur Internet ni de vidéo ni rien, t'sais, de la version québécoise ni de MP3, parce que je sais qu'il en existe au moins une sur un album de Brique Syndicale de lutte en surlutte qui a été fait en 99. En 99, il n'y avait pas encore beaucoup de monde qui prenait les albums, les CD, puis qui mettait sur le web. Donc c'était impossible à trouver.
On était trop là.
Oui, puis on l'avait pas à la station ici. Mais je vais essayer de la trouver à un moment donné, parce que là-dessus, il y a quand même une quinzaine de tunes intéressante de chansons ouvrières, certaines révolutionnaires, d'autres pas, mais en tout cas des chansons syndicales. Et donc c'est ça. Bon, c'est une traduction de Solidarity Forever. La chanson en tant que telle a été écrite, la chanson originale a été écrite entre 1914 et 1915 par Ralph Chaplin, qui à ce moment-là, quand il a commencé à l'écrire, il couvrait une grève des mineurs de charbon à Huntington, en Virginie-Occidentale, pour un journal qui s'appelait Solidarity, qui était en fait l'organe central des Industrial Workers of the World de la côte est américaine.
Les Wobblies.
Les Wobblies. Donc, le gros syndicaliste révolutionnaire, finalement, de l'histoire nord-américaine. Et donc, oui, c'est ça, c'est juste avant qu'il se fasse vraiment tomber sa noix, les Wobblies. Et donc, voilà. Et il a terminé d'écrire ça lors d'une manifestation contre la faim en janvier 1915. Chaplin, c'était une des figures de proue des IWW, à ce moment-là, et c'était entre autres le rédacteur en chef de Solidarity, et c'était un poète et un homme qui faisait vraiment, tu sais, c'était un agitateur là, hors pair. Puis Solidarity Forever, qui d'ailleurs, comme beaucoup, beaucoup de chansons révolutionnaires, reprend un air patriotique connu, en fait, il n'a pas composé une nouvelle chanson avec ça, là, il a repris un air connu.
Une chanson militaire. Là,
une chanson militariste, en fait, une patente que tout le monde connaissait là, à l'époque. Donc, le but, c'était de populariser le programme syndicaliste révolutionnaire. La chanson, d'ailleurs, est devenue, est un des classiques, et ça s'est retrouvé dans le Little Red Songbook des IWW, qui est un espèce de calepin de chansons qui a été édité 37 fois depuis 1909 et qui est un espèce de calepin de chansons syndicales. Finalement, la plupart des chansons qui sont là-dedans sont devenues des classiques. Curieusement, la chanson, elle, a survécu au syndicaliste révolutionnaire historique et au IWW qui effectivement se sont fait, mais littéralement décapités peu de temps après, et c'est devenu l'hymne du syndicalisme anglo-saxon. C'est vraiment la chanson par excellence. D'ailleurs, ça irritait profondément Chaplin dans les années 30 quand les bons de l'AFL-CIO qui puissent entonner la chanson, la chanter dans des congrès syndicaux. Et lui, ça le dépassait complètement. Et il faut dire aussi que la version qu'ils entonnaient est sévèrement amputée. Là, ce qu'on a entendu, c'est en gros ce qu'ils chantent d'habitude, mais il faut savoir que normalement, sur les lignes de pitage, les gens connaissent juste le deux, ils connaissent juste le tiers à peu près de la chanson. En gros, le refrain, puis deux, trois autres affaires. Et tout ce qui est de l'autogestion, tout ce qui est de l'explication, de l'extraction de la plus-value, de l'exploitation et tout ce qui est révolutionnaire, finalement, est profondément subversif et retiré. Donc voilà, ça le faisait vraiment capoter. Puis Chaplin, plus tard, bon, il est devenu catholique parce qu'il s'est rendu compte que le mouvement syndical, c'était pas pour lui. Dans les années 20-30, là, il a fait comme, non, ça marche pas, puis c'est pas intéressant. Et c'est dans les années 40, en fait, qu'il faisait ces commentaires-là, après la loi Taft-Hartley qui permettait de donner qui donnait la reconnaissance syndicale et les prélèvements à la source, et lui, il disait que le syndicalisme est devenu une business plutôt que d'être une cause.
Et voilà.
Donc, ça me dérange profondément et ça me fait chier qu'il chante cette chanson-là. Ceci dit, aujourd'hui, Solidarity Forever, c'est la chanson ouvrière la plus connue dans le monde après l'international. Et non, mais c'est vrai. Sinon, c'est l'international qui est plus connu. On se demande pourquoi. Et donc, voilà. Curiosité historique, notre camarade Mathieu me faisait remarquer que Ralph Chaplin a vécu quelques mois à Montréal en 1914. Juste avant de venir, il s'était poussé des States quand c'est devenu le show puis qu'il allait avoir une déclaration de guerre. D'ailleurs, c'est lui qui a fait le discours le plus radical le 1er mai de cette année-là à Montréal, où il appelait à la grève générale pour empêcher la guerre, ce qui ne s'est pas produit.
Effectivement.
Mais voilà. Donc cette chanson-là, qui est très jolie, on va en entendre une version plus proche, en fait, de ce pourquoi elle est connue, parce que là on a entendu la version, une espèce de version bolchevique,
franco-bolchevique,
ouais, quasiment militariste. Là on va entendre Pete Seeger, puis ça c'est plus proche de l'esprit de l'original, très folk.
Banjo.
Shall run, there can be no power greater anywhere beneath the sun. one. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong.
Solidarity forever.
It is we who plowed the prairies, built the cities where they trade, dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid. Now we stand outcast and starving, mid the wonders we have made, but the union makes us strong.
Solidarity forever.
Taken untold millions that they never toil to earn, but without our brain and muscle, not a single wheel can turn. We can break their haughty power, gain our freedom when we learn that the union makes us strong.
Solidarity forever.
In our hands is placed a power greater than their hoarded gold, greater than the might of atoms magnified a thousandfold. We can bring to birth a new world from the ashes of the old, for the union makes us strong.
Solidarity forever.
J'ai soudain un doute, je pense que c'était pas Pete Seeger. Enfin bon, j'ai trouvé le MP3 sur, en suivant des liens à partir de The Labor Start Radio. Mais sur notre site, en fait sur notre blog, on voit de fait avec un x et un s.blogspot.com, il y a un joli petit vidéo. En fait, c'est pas une vidéo, c'est comme une espèce de PowerPoint sur
avec
YouTube.
Une musique.
Il y en a tellement de ça sur YouTube.
Il y en a
c'est
trop.
Cool.
C'est pas des vidéos. Là.
Non, c'est pas des vidéos, mais c'est le fun, t'as plein d'images. C'est des images qui bougent avec de la musique.
Oui, en plus, des fois, les images n'ont même pas rapport.
Ouais, Brian, le directeur de la programmation ici, il dit que c'est des PowerPoint mal chiés, mais bon.
Oui, en fait, effectivement, souvent, c'est ça. Oui.
Toujours est-il qu'il y en a un avec justement, c'est Pete Seeger qui chante, et c'est des photos des grèves des Wobblies, puis de cette période-là. Donc, ça vaut vraiment le coup, puis c'est quand même bien, c'est intéressant à voir et à entendre, malgré le fait que effectivement technologiquement, ce soit pas tout à fait au point.
On a ça sur...
Voix de fait avec un x et un s.blogspot.com.
On dirait que t'as fait ça toute ta vie.
Ouais. Donc, toujours est-il que c'est cela. Sinon, la chanson, par ailleurs, en français, est pas évidente à trouver, mais en anglais, là, je veux dire, tous les grands folk l'ont chanté, là. Je veux dire, tous.
Name it.
Woody Guthrie.
Tout, c'est lui qui l'a chanté, tout le monde l'a chanté.
Ouais, je suis sûr que Bob Dylan l'a chanté aussi. Puis l'autre, là, que je me souviens plus de son nom, là, le britannique, il y en a une chanson qui s'appelle The Union Make Us Strong. Ben, parlant de syndicalisme et de syndicalisme révolutionnaire et tout ça, là, j'essaie de faire une transition, mais j'ai bien de la misère parce que je veux vous parler des nouveaux cahiers du socialisme. C'est pas évident. Il se passe des choses au Québec, je dois vous dire. Et ça, c'est un signe qui se passe vraiment quelque chose. Je tiens entre les mains le numéro 1 des nouveaux cahiers du socialisme avec pour thème les classes sociales aujourd'hui. Alors ça, c'est une revue qui vient d'être lancée, en fait, il y a quelques semaines. Ça a été imprimé en février 2009. Donc, ça fait vraiment pas longtemps.
C'est tout chaud.
Oui, et c'est vraiment, c'est une revue dans la plus pure tradition des revues politiques des années 60 et 70. Il y en a encore dans d'autres pays, mais ici, il n'y en a plus. C'est une revue qui est constituée, donc le comité de rédaction est constitué de militants et de profs d'université. Et donc, et toutes des intellectuels, on s'entend.
Les militants pour pondre les textes, puis les profs pour les corriger.
Non, quand même pas. Et c'est une revue qui fait dans la recherche sur sociologique, mettons, disons. Les nouveaux cahiers de socialisme. Pourquoi les nouveaux cahiers de socialisme? Parce que, ben, vous vous en doutez, il y a déjà eu une revue qui s'appelait Les cahiers du socialisme au Québec. On est surpris de l'apprendre. Revue qui avait quand même une certaine importance, qui avait commencé à être publié au printemps 78 à Montréal et qui regroupait en fait des profs de l'UQAM, des intellectuels et des enseignants à l'UQAM, qui se définissaient sur une base militante plutôt que strictement universitaire et qui, à l'époque, en fait, faisaient dans la recherche marxiste et qui s'intéressaient à la composition de classe, au socialisme et tout ça et tout ça. Et puis là, on a cette revue-là qui apparaît en 2009 au Québec et qui... et c'est pas juste un appel du pied au passé. J'ai lu la chose et c'est vraiment anticapitaliste. En fait, ils font dans la recherche anticapitaliste, mais ils disent, je vais reprendre une de leurs terminologies que j'ai trouvée jolie, anti- et post-capitaliste. Oui, ils font de la recherche post-capitaliste. De quoi ça va avoir l'air quand on va s'en être débarrassé? Ça, c'est vraiment intéressant et, disons-le, c'est franchement rare.
Oui, j'en connais un qui fait ça.
Il n'y en a pas beaucoup.
Mais il organise des mordus de l'anarchie.
Oui, et donc c'est ça. Le premier numéro de cette revue se penche sur la question des classes sociales et aborde la question de plusieurs façons. Bon, évidemment, il y a toute une section là. Ils disent que c'est un projet à long terme et qu'ils n'ont pas l'intention de régler le cas en... ma foi, combien il y a de pages là-dedans? 300 pages, 285 pages, mais ils jettent les bases d'une recherche plus élaborée sur les configurations de classe aujourd'hui au Canada, entre autres, d'un côté, de quoi est composée la bourgeoisie canadienne, et d'autre, bon, les classes opprimées, le prolétariat, finalement. C'est, à mon avis, un petit peu, sur l'aspect, là, juste... Bon, il y a toute une section là, qui s'appelle Bourgeois et prolétaires qui tente en fait de gratter le bobo puis de voir là, de donner une configuration là, la configuration de classe au Québec, de quoi ça a l'air aujourd'hui. Bon, à mon avis, c'est un peu moins fouillé que certaines affaires qui sont sorties dans les dernières années, notamment un texte que j'avais lu du Parti communiste révolutionnaire et du défunt groupe Action socialiste sur le prolétariat canadien, qui était vraiment très fouillé et très fait. Mais sinon, c'est quand même intéressant, c'est Pierre Baudette, en fait, et Pierre Bowen qui se penche sur cette question-là. Et ensuite de ça, il y a toute une série d'articles de débat sur les classes et leur place. J'ai entre autres retrouvé une affaire que j'ai vraiment trouvée intéressante, dont le titre est vraiment pas bon à mon avis, c'est Intellectuel et classe sociale, mais qui parle en fait de l'existence d'une classe de gestionnaires et qui dit, bon, c'est beau, il y a la bourgeoisie, il y a le prolétariat, mais il y a aussi une classe managériale qui est en fait, qui sont la classe des coordonnateurs. Et il reprend l'idée en fait à tout un courant américain qui est basé autour d'un truc qui s'appelle l'économie participaliste, qui est Michael Hart puis et d'autres comme ça, des marxistes libertins. Et il revient sur cette question-là puis pour voir au Québec qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire. Regarde aussi qu'est-ce qui influe sur la composition de classe et les différents trucs. Et je dois avouer que, à ma grande surprise, il y a peu de choses là-dedans qui sont vraiment très, 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 très compliquées à comprendre. Il y a un texte, en fait, que j'ai vraiment décroché parce que j'étais pas capable. Là. Mais sinon, c'est à la portée pas mal tout le monde qui a lu un peu, là, dans la mesure où moi j'ai jamais mis les pieds à l'université puis j'ai été capable de comprendre, donc j'imagine que ça doit être pas si mal. Et sinon, bon, outre ce dossier-là sur les classes sociales, il y a quelques textes pour commencer à appréhender la crise économique, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça va vouloir dire, et aussi une section qui va revenir à chaque numéro, deux sections en fait, une section qui s'appelle bilan de lutte, qui sont des essais en fait sur les luttes sociales, qu'est-ce qui se passe, et là dans ce cas-ci évidemment on s'intéresse essentiellement des luttes de classe, soit la lutte au Journal de Québec et la lutte contre GM et les transformations au sein du syndicat des travailleurs canadiens de l'automobile, puisque le syndicat a dû accepter des concessions très importantes de la direction de GM, ce qui n'a pas empêché GM de fermer quand même des usines au Canada et puis de voir comment ça s'était configuré. Et finalement aussi, lutte de classe dans l'université, c'est-à-dire toute la qu'est-ce que ça implique, là, les campagnes de syndicalisation des étudiants chercheurs. Donc ça, c'est des choses qui se font. Et un truc vraiment intéressant sur qui s'appelle Apparence, hypersexualisation et pornographie sur l'hypersexualisation et la pornographie, et la prégnance de la pornographie en fait et l'imaginaire pornographique dans la culture occidentale. Donc tout ça c'est finalement bon, c'est une brique, c'est vraiment intéressant. À mon humble avis, c'est en tout cas, le numéro 1 était très bien. C'est, disons que ça ouvre les fenêtres. Et pour une fois, une revue qui fait pas dans la propagande pure et dure, qui se pose des questions puis essaye de voir comment est-ce qu'ils peuvent y répondre. Plus ou moins, là, c'est plus de l'ordre de la recherche et du doute que de l'ordre de la vérité assainie et révélée. Donc c'est vraiment intéressant. Ceci dit, ça coûte une beurrée.
Ah non!
Oui, c'est 20$ le numéro.
Mais on parle. À 40 quand tu dis une beurrée.
Ah non, mais ouais, ok, d'accord. Toi, tu sais combien ça coûte une revue. Mais bon, c'est 20$ le numéro, mais bon, on est quand même bien servi, là. C'est, en fait, c'est un bouquin de 285 pages.
Oui, puis c'est de la qualité, là. C'est pas relié avec des fils, puis.
Non, c'est un vrai bouquin. On peut trouver ça un peu partout, sur. Mon Dieu, je l'ai vu à la Maison de la Presse, je l'ai vu à la Librairie Pantoute, je l'ai vu à Tabagie la Pipe. Il y en a un peu partout qui traînent. C'est le collectif d'analyse politique qui édite ça. Ceci dit, si vous êtes comme moi puis que vous êtes un peu tôlé d'envie, je vous invite à vous abonner dans la mesure où vous allez avoir pour une fois un réel rabais. En fait, vous voyez, c'est 30$ pour deux numéros, donc vous sauvez 10$.
Hey, c'est pas fou.
Alors, www.cap.qc.edu. Ouais, c'est ça. cap.qc.ca.edu. E-D-U. Alors, voilà, pour aller voir le truc. Puis sinon, ben, moi, j'ai vu des pubs un peu partout, là, sur le site de Presse-toi à gauche. Et voilà. C'est très intéressant et ça vaut la peine, de mettre la main là-dessus, ne serait-ce que pour se faire une idée. Ceci dit, peut-être que c'est juste moi qui s'intéresse à ce genre de trucs-là. C'est possible aussi.
Non, je pense même que je vais être bombé.
Voilà pour ça. Est-ce qu'on tombe tout de suite dans les plugs ou ben, on met une chanson puis on va.
On va mettre une bonne petite chanson.
Ouais, remarquez, là, c'était une méchante grosse plug, ça. Là,
mais... Ah, on est gentil à votre fait.
Envoyez-nous vos revues.
On va continuer avec I Am, avec la pièce rap de droite.
Là, on va redoubler d'ardeur pour botter le cul de tous les patrons inconsidérément. C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire.
T'écoutes, voix de
fait, madame.
Les diamants dehors, les pistons, les salaires équipés, les nippers en silicone et les filles désinhibées, les Audi, les PM, les Hummer et les Merco, le cuir et les peaux, les chaudets, des 8 dans Plego, des mythos, les neuvages, la race au combat, les gros, les clépards, les sapés, les marques, les parts de marché, le robot et les strass, les armes parades devant les caméras, les camarades apportent le jus à la haine, posé sur son quai d'amarrage, pas facile à chaque instant, j'essaie d'y échapper, la pub, la vie de chaque jour pousse, maintient la pression, avoir ouvrir et acheter, comptant pire qu'une agression. Alors maintenant dans les clips, ça vient pour compter le blé. On vit comme ces tours et ces blocs qui crient le paysage. Les cités, les rues, les bars, les villes qui le dévisagent. On jalouse, on oui, on crache, on râle, on est médisant. Ce sens, la France est dans nos veines, on fait de bons paysans. Le système de l'État produit le crime par la force. Et en face, on répond, créant la force par le cri. On exige, on impose le silence par les cris. On garde la création du rap juste à deux doigts de la mort. Juste à deux doigts de la mort. Les couleurs font des toupaves. On vend des picots, des niaques, des négros, des toupaves. On se croirait au but du fou, au front ou à l'UMP. T'as bien les culs posés au milieu du rap français. Munitions, vins des balles, c'est du rap de droite. Femmes soumises ou à poil, c'est du rap de droite. Corruption, copinage, c'est du rap de droite. Aucun choc affiché pas pour un bon rap de droite. Fais pas chaud, faux rebelles, c'est du rap de droite. Trop de ventes, de cocktails, c'est du rap de droite. Plein de bouches, pas d'oreilles, c'est du rap de droite. Doucement la vie nous
format pour un bon bac de droit.
Le truc libre sans limite. Et c'est presque une prison où que tu ailles en tépis. Comme Gomer au balcon, ça marche chez le voisin au lieu de passer un coup de balai d'eux. Quand ça porte avec l'ego bien plus gros que le K2. On prend le moyen, on fait croire que c'est bon. Souvent l'emballage est plus solide que ce qu'il y a dedans. On sème et on récolte immédiatement, on prend rien plus de temps. Avant c'était le goudron, mais c'est le passé. Et à présent on veut du caviar bien gras. Pas du 0%, vos cigares et vodka. Loin du merde d'antan, VIP et cristal. Diamant dans les dents, tout dans la tendance. Comme tous, y'a aussi les juges et leurs jugements. Souvent émis dans le noir, les putes et les petits gonds. Souvent tapis dans le bois, on parle plus de fesses que de fond. De figues ou de flow, de façon ça sert à rien. Ça rapporte moins que les strings en vidéo. Y'a des réseaux de surveillance qui voient pas du bon oeil. Des rumeurs et des ragots, des pas à la même taille. Ok, parfois ça vole pas haut, mais regarde un peu ma grosse médaille. On aurait dû tourner ailleurs, on s'est perdu, ça fait un bail.
Munitions, c'est des balles, c'est du rap de droite. Femmes soumises ou à poil, c'est du rap de droite. Corruption, copinage, c'est du rap de droite.
Aucun choc affiché basse pour un bon rap de droite.
Frère facho, faux rebelles, c'est du rap de droite. Trop de ventes, de cocktails, c'est du rap de droite. Plein de bouches, pas d'oreilles, c'est du rap de droite. Doucement la vie nous formate pour un bon rap de droite.
Hey, c'est déjà l'heure des plugs. Ben, pour faire une histoire courte, j'en ai deux. Mais il y a peut-être d'autres choses aussi qui se passent à Québec à d'autres moments de la semaine prochaine. Mais moi, il y a deux trucs qui ont retenu mon attention, en fait, et c'est deux conférences coup sur coup la semaine prochaine.
Voilà.
Lundi et mardi prochain, ça va être, ça promet. En fait, lundi, il y a... Il y a quelque chose de vraiment bizarre qui se pointe à l'agité. C'est des amis de gauche socialiste qui ont attiré mon attention là-dessus. Puis c'est les gens des nouveaux cahiers de socialistes qui organisent le truc. En fait, c'est...
Convergence.
Oh, oui, non, c'est toutes les trottes et les marxistes bizarres, Thomas Critique, tout ce monde.
Sauvez-vous.
Ils sont mis ensemble pour faire venir Philippe Corcuff au Québec, et il va passer à Québec, et puis bon, c'est Gauche socialiste qui organise à Québec, ça va être à l'AJT, une conférence sur le thème éco-socialisme, décroissance, anticapitalisme. Vous avez peut-être vu des affiches en ville, là, ils sont quand même assez jolis, là, c'est comme une espèce de...
Coloré.
Oui, ils sont colorés, ça, pour être colorés, ils sont même pas mal dans les tons de vert, hein. C'est une horloge à minuit moins 5 avec une espèce de truc, genre des haricots, là, ça fait un peu... les haricots magiques là qui mangent. Mais bon, toujours est-il que c'est pas pour ça que c'est intéressant. C'est quand on sait c'est qui Philippe Corcuff. Philippe Corcuff, ça c'est un de ceux qui est derrière la revue Contre-temps en France. Et puis ça, c'est un intellectuel de haut niveau. Toi, il participe au Conseil scientifique d'Attaque France et il est intégré depuis des années à la direction de la LCA. Alors la LCA, pour les gens qui le savent pas, ça s'appelle c'est la Ligue communiste révolutionnaire.
C'est aussi gros que le PCA.
C'est pas mal plus gros que le PCA. Et maintenant, eux, ils ont lancé une initiative qui s'appelle le NPA, le Nouveau Parti Anticapitaliste. Et Philippe Corcuff, donc, qui est dans la direction de cette affaire-là, a la particularité de se définir comme un social-démocrate libertaire.
Alors, c'est beau, membre, la postmodernité, j'aime ça.
Il est membre d'une affaire... Non, mais il est membre du bureau de direction d'une affaire qui s'appelle la Ligue communiste révolutionnaire, mais lui, il se définit comme un social-démocrate libertin.
En plus, c'est pas trotte, ça.
Oui, c'est historiquement trotskiste, mais il a répondu à un appel à l'unité il y a quelques années, et ben, c'est pas le seul, il y a quand même quelques-uns là, qui se définissent libertins là-dedans, là, leur
ouais, mais social-démocrate libertin.
C'est vraiment space. Lui, il dit que... la perspective révolutionnaire, là, pff, ça vaut pas de la chenoute. Mais bon, en tout cas, pour savoir ce que ça mange en hiver, ça, pointez-vous à l'agité dès 19h, le 23 mars. Ça risque d'être vraiment intéressant, parce que quand même, le gars, c'est pas un deux de pique non plus, là.
Vite de même, on va savoir qu'est-ce que ça mange au printemps.
Oui, c'est vrai. T'as raison. Disons que ce sera un réchauffement climatique pour notre causerie du lendemain sur le communisme libertaire, même en même poste. En fait, malheureusement, Farouko a égaré la publicité, donc je vais être obligé d'imiter Mao.
Non, non, c'est pas ça.
Non, tu fais pas ça.
Non.
Donc, voilà. Ben, les mardis, c'est les mardis de l'anarchie à l'acheter. OK? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui manquent les mardis de l'anarchie parce qu'ils tiennent absolument à écouter Ainsi Squat-t-elle. Ils ont raison. Ainsi Squat-t-elle est une bonne émission. Mais les mardis de l'anarchie, c'est aussi très intéressant parce que ça permet de discuter de tout plein de trucs dont on n'ose pas discuter d'habitude parce que, bon, tu vas pas organiser une conférence pour ça. Sauf que les mardis de l'anarchie permettent, bref, de débattre de tout plein d'affaires. Ils offrent un espace non sectaire pour les libertaires de s'exprimer et tout. Bon, c'est à l'agiter, c'est autour d'une bière. Il faut y avoir des débats, des films, différentes activités. Et puis, mardi prochain, le 24 mars, c'est nous.
Ouais.
Nous qui va présenter l'UCL, en fait, qui va présenter le communisme libertaire. Alors, notre titre est vraiment, mais songé. Communisme libertaire de Cossé.
Ouais, très intellectuel.
Un projet pour la révolution sociale. Et donc, c'est ça, on va parler de notre projet de société, on va parler de capitalisme, on va parler d'organisation politique, de plateforme, d'UCL, de collectif, de tout démêler tout ça. Bref, c'est nos présentations officielles au mouvement libertaire de Québec.
Salut, c'est nous.
C'est ça. Soyez-y.
On est capable.
Et puis si vous y êtes pas, ben on va peut-être...
Et ce jeudi, le 19 mars, il va y avoir de Margot Dubat, Zéphir Atterri à l'acheter. C'est à 20h et ça coûte 7$.
Oui.
C'est party de la Saint-Patrick-Arton.
Oui, party de Saint-Patrick.
Donc voilà, c'est ce qui mettait fin à cette édition de Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit. C'était Nicolas.
Jani.
Farouk.
Et si vous voulez en savoir plus, que vous manquez de jus... Voix de fait avec un X et un S.blogspot.com.
Ouais. Ah. Bonne semaine.
Vous écoutez Voix de fait.
Send a respect love zone to the article Big Red.
Je m'en donne.